Chapitre 3. Histoire de Lady de la Cour. Le lendemain matin, Belinda fut réveillée par Mariette, qui lui apportait de la part de Milady le billet suivant, écrit avec un crayon. « Milord de la Cour, mon seigneur et maître, est en fête aujourd'hui. Si vous êtes assez aimable pour vouloir dîner avec moi tête à tête, j'écrirai un billet à Lady Singleton pour lui faire un compte et je me dégagerai. » Nous aurons la soirée à nous. J'aurai bien des choses à vous dire, car vous savez que quand on commence à parler de soi, on en a pour longtemps. J'ai pris double dose d'opium, je ne suis pas tout à fait si maussade que je l'étais hier au soir, et vous n'avez point à craindre de nouvelles scènes. Venez me voir, ma chère amie, dès que vous aurez rendu hommage aux divinités domestiques. Mais à propos, vous ne mettez pas de rouge, c'est égal, vous en mettrez une fois. Il faut y venir tôt ou tard. Voulez-vous que je vous apprenne un secret? Quand vous voudrez qu'on ne puisse pas ouvrir vos billets, ne vous fiez ni à la cire ni au pain à cacheter. Chiffonnez-les comme je fais, c'est beaucoup plus sûr. Vous voyez qu'avant de quitter ce monde, je veux vous apprendre des choses utiles. Au reste, à présent que j'y ai réfléchi, je ne compte pas mourir de sitôt. Nous aurons encore bien du temps pour causer. Adieu. Belinda se rendit dans l'appartement de Milady. Elle la trouva tout à fait remontée par l'opium et par la toilette. Elle faisait un travail avec Mariette et sa marchande de mode sur une jupe de crêpe qui était étalée devant elle. Miss Rifrank discutait savamment sur les franges, les festons, les nœuds et soumettait toujours humblement son opinion au goût et au jugement de Milady. Mariette avait de l'humeur et gardait le silence. Cependant, sa maîtresse l'ayant interpellée de donner son avis sur certaines fleurs de laburnum qu'on hésitait à mettre dans la garniture, elle se déclara contre les fleurs en citant l'autorité de Madame Bellamy. « La couleur de paille devient blanc sale lumière, » dit-elle sèchement. Madame Franks, qui ménageait tout le monde, proposa alors des fleurs de laburnum en or. Et elle ajouta « L'or fait toujours bien partout. » Lady de la Cour eut peur que l'imagination de la marchande de mode, une fois ébranlée sur l'or, elle ne prit la fantaisie vulgaire d'être payée comptant, et elle leva la séance en s'écriant tout à coup « Nous serons trop tard à l'exposition de porcelaine chez Philippe. Miss Rifrank, faites-moi le plaisir de venir nous voir demain. Il faut que nous inventions absolument quelque chose de marquant pour Belinda qui doit être présentée à la Cour. » Je vous donne 24 heures pour y penser et vous en aurez tout l'honneur. Adieu, Mistress Franks. Savez-vous, dit-elle à Belinda quand la marchande de mode fut sortie, que j'ai fait une étourderie ce matin? J'ai écrit un billet chiffonné à Clarence Hervey. Mais au reste, il est bien inutile que je vous dise cela à vous. J'ai peur à présent que votre esprit n'aille courir après ce billet chiffonné au lieu de donner son attention à l'histoire d'une personne de qualité racontée par elle-même. Après dîner, Lady de la Cour commença par faire protester Belinda qu'elle ne pensait point au billet chiffonné. Ensuite, elle commença son histoire en ces termes. « Je ne fais rien à demi, ma chère amie. Je ne veux pas vous dire mon histoire, comme Gil Blas disait la sienne à l'archevêque de Grenade, c'est-à-dire en glissant sur les passages les plus utiles. » Je ne suis pas une hypocrite et je n'ai rien de pire à cacher que des folies. C'est bien assez, car celle qui fait des folies est toujours soupçonnée de faire des sottises. Mais je ne sais pas pourquoi je commence par la morale. Vous pourrez la faire quand j'aurai tout dit. Quant à moi, je n'écoute jamais la morale d'un roman. J'étudie les mœurs et je laisse la morale à ceux qui l'aiment. J'ai ouï dire que rien ne ressemblait moins à une bataille qu'une manœuvre d'exercice. Et moi, je dis que rien ne ressemble moins à la vie qu'un roman. Si donc vous attendez un roman, vous allez être bien attrapé. Il n'y a rien de remarquable dans mon histoire, car il n'y a point d'amour. En revanche, il y a de la haine tant qu'on en veut. J'étais une riche héritière, j'avais, je crois, 100 000 livres sterling et au moins autant de caprices. J'étais jolie et j'avais l'esprit. On me trouvait agréable et j'avais du succès. Vous pouvez aisément croire que je ne manquais pas d'adorateurs. Je ne reçus pas moins de 16 propositions en forme. Je suis sûre que vous dites en vous-même, c'était bien la peine d'avoir tant de choses à faire pour prendre l'ordre de la cour. Ma chère amie, vous autres qui n'avez jamais été dans ce cas-là, vous vous imaginez que c'est la chose la plus aisée que de se décider pour un mari entre plusieurs prétendants. Tenez, rappelez-vous comment vous êtes embarrassée quand il s'agit seulement de choisir une étoffe chez le marchand. Il vous montre une pièce après l'autre en les vantant à sa manière. L'une vous sied à merveille, l'autre est d'un dessin charmant, une troisième est à la mode du jour, une quatrième est d'un usage admirable. Enfin, il y a de quoi hésiter longtemps. On se lasse, on se tourmente, il se fait tard, et l'on finit par prendre ce qu'il y a de plus médiocre. C'est précisément la même chose pour les jeunes héritières dans le choix d'un mari, et c'est là mon histoire à moi. Je pris le vicomte de la cour parce que j'étais lasse d'hésiter. Il venait, dans ce moment-là, de perdre à Newmarket plus d'argent qu'il n'en avait jamais eu. Ma fortune lui allait donc fort bien, il ne voulait guère que cela de moi. Je vous ai dit qu'il n'y avait point d'amour dans mon histoire, et j'ai eu tort, car je me souviens qu'à 18 ans, j'avais dans la tête quelque chose qui ressemblait assez à de l'amour pour un certain Henri Percival, jeune homme tout à fait dans le genre de Clarence. Mais, je vous en demande pardon, il avait plus de bon sens. Il était amoureux de moi, mais malheureusement, il n'était pas amoureux de mes défauts. Je voulais qu'il aimât mes défauts, parce que je sentais bien que c'était une partie essentielle de moi-même. Je lui dis « Vous ne voulez pas ?» Il me répondit « Je ne peux pas. » Je remarquai qu'il faisait des mines, lors de la cour n'en faisait pas. Je le lui proposai pour modèle. Il me dit que ce modèle-là ne lui convenait pas. Et moi, piqué, je me mariai pour le piquer. Ce qu'il y eut d'humiliant pour moi, c'est qu'il prit la chose en patience. 6 mois après, il épousa une femme d'un grand mérite. Je ne peux pas souffrir ces femmes d'un grand mérite. Pauvre Percival, si je l'avais épousé, je suis sûre que j'aurais été très heureuse et que j'aurais fait une excellente femme. Voyons, où en étions-nous? Ah! J'épousai donc Milord de la Cour, sachant qu'il était un sot et espérant le mener comme je voudrais. Quelle erreur! Il n'y a rien de si difficile à mener qu'un sot. Nous commençâmes notre carrière matrimoniale avec les plus belles dispositions à donner dans tous les travers et jamais nous ne pûmes nous accorder sur aucun. Cette différence de goût fut précisément la cause de toutes mes querelles. Pendant la première année, j'eus toujours le dernier mot dans nos disputes. Tout opiniâtre qu'il était, j'espérais le ramener à la raison. Vous pouvez voir aujourd'hui comme j'ai réussi. Mais je crois pourtant que j'en serais venu à bout sans un incident diabolique qui semblait n'être qu'une bagatelle. Son valet de chambre, Champfort, est un personnage pétri d'amour-propre. Un jour, je m'avisai de lui dire qu'un tondeur de mouton aurait mieux coupé que lui les cheveux à son maître. Il devint furieux et tout en coiffant Milord, il lui raconta que l'on disait dans le monde que Milady le menait. Mon mari prit feu, et je fus tout étonné qu'ensuite, lorsque je voulus lui faire faire quelque chose de raisonnable, il me répondit brusquement « Je ne suis pas homme à me laisser mener par ma femme, entendez-vous » Et de ce moment-là, tous ceux qui savaient lire sur une physionomie lisent sur la sienne « Je ne suis pas homme à me laisser mener par ma femme. » Je ris, mais je vous assure que cela n'est pourtant pas plaisant et je vous souhaite, ma chère amie, de ne pas avoir pour mari un sot opiniâtre. C'est tout ce qu'il y a de pis. J'entrepris de le corriger. Pour y réussir, je recours au poison de la jalousie. Il y avait quelque temps que je méditais mon projet lorsqu'il se présenta un sujet propre à mon plan, un homme avec lequel je crus que je pourrais être coquette sans aucun danger pour moi. C'était un certain colonel Lawless, fat consommé, qui n'avait rien dans la tête. Je me dis à moi-même, le monde ne croira jamais que Lady Delacour ait quelque attachement pour un homme de cette espèce. Mais Milord le croira. Rien n'est trop absurde pour lui. La moitié de ma théorie se trouva juste. C'était déjà bien honnête pour de la théorie. Milord avalait le poison à longs traits avec une bonhomie qui me divertissait fort. j'eus un succès complet sur ce point, et il devint fou de jalousie. Alors je repris de l'espérance, parce qu'on peut mener un fou, au lieu qu'un sot, on ne le peut pas. Au bout d'un mois, je le vis arriver avec une face allongée, et il me dit qu'à l'avenir, il ferait tout ce que je voudrais, pourvu que je consultasse son honneur et le mien, et que j'abandonnasse le colonel. Le mot « abandonner » était si plaisant que j'eus toutes les peines du monde à ne pas lui rire au nez. Je lui répondis qu'aussi longtemps qu'il m'avait traité avec des égards convenables, je n'avais jamais eu l'idée de rien faire qui pût lui être désagréable, mais que je n'étais pas femme à me laisser mettre des menottes. Alors il se répandit en excuses et me promit de conserver avec moi tous les égards que je méritais. Je profitai de l'ascendant que j'avais pris et je ne me gênais en rien. Toutes les fois qu'il voulait me dire quelque chose, je me récriais sur le manque d'égards et je lui faisais craindre l'événement qu'il redoutait le plus. Cependant, je faisais une dépense enragée et Milord n'en faisait pas moins de son côté. Un jour, il vint à réfléchir que si nous dépensions 20 000 livres sterling par an, avec un revenu de 10 000 livres sterling, nous finirions par être ruinés. Il arrive dans mon appartement avec sa découverte et m'en fait part. Je lui répondis qu'en effet, il était convenable qu'il réformât sa maison, mais que, quant à moi, il était impossible que je fisse aucun retranchement à ma liste civile, que je n'avais jamais entendu parler d'économie dans la maison de mon père, que ces choses-là étaient bonnes à dire au Parlement et qu'il pourrait en faire le sujet d'un discours à la Chambre des pairs. Lord de la Cour se trouva moins entrain que jamais d'entendre la plaisanterie. Il se fâcha, et moi je lui répondis qu'une héritière qui lui avait apporté 100 000 livres sterling avait certes bien le droit de s'amuser, et que ce n'était pas ma faute si les amusements de la bonne compagnie étaient plus chers que les autres. Il survint de là une vive altercation et des récriminations sans fin. « Milord, ce sont vos folies de Newmarket. Milady, ce sont vos folies de théâtre. Et certainement, il m'est bien permis de m'amuser. Et assurément, j'ai bien aussi le même droit que vous. » Enfin, nous nous payâmes réciproquement en paroles aigres. Si nous avions pu payer tout le monde de même, les choses auraient été fort bien. Mais, après avoir été dans l'opulence, nous nous trouvâmes dans une véritable détresse d'argent. Alors nous vendîmes des terres, puis les courtiers, les notaires, etc., nous procurèrent des fonds. Moi, je ne m'embarrassais pas de quelle manière cet argent se trouvait, pourvu qu'il vînt. On me présentait de temps en temps des papiers à signer, et je signais toujours. Enfin, un beau matin, le notaire me demanda audience pour me communiquer que ma signature ne valait plus rien. Je lui demandai l'explication de ce phénomène et je ne compris pas un mot à ce qu'il me dit. C'était un homme extrêmement désagréable, laid comme un vieux singe. Il m'ennuyait. Je fis demander un de mes oncles qui faisait mes affaires d'argent avant mon mariage et je le mis aux prises avec le notaire afin qu'ils s'entendissent s'ils pouvaient. Une demi-heure après, mon oncle vint me trouver. Il était dans une fureur épouvantable et me dit qu'avec tout mon esprit, je me laissais duper comme une bête. Je crus d'abord que tout cela n'était qu'une plaisanterie, mais lorsqu'il m'expliqua que, si Milord mourait, je serais sans le sou, je devins sérieuse comme vous pouvez croire. Il me fit entendre qu'on m'avait escroqué ma dot et tous mes droits nuptiaux. Je répétai cela à Milord avec quelque aigreur. Il me répondit « Nécessité n'a point de loi, ce qui est, comme vous savez, l'adage des fripons. » Vous comprenez quelle supériorité les torts de l'ordre de la cour me donnèrent dans nos discussions. Les querelles d'amour amènent des raccommodements. Dans les querelles d'argent, il n'y a point de fin et l'on se hait toujours davantage. C'est de ces discussions d'intérêt que date ma haine pour Milord. Auparavant, je le méprisais tout simplement. Vous ne pouvez pas vous faire une idée de la bassesse de sentiments et de conduite qu'amènent les extravagances d'argent. J'ai vu mon mari dire des mensonges, inventer des excuses, tergiverser avec gens de rien à l'occasion de quelques dîners. Je ne peux pas y penser sans honte. Enfin, je résolus de faire bonne contenance et de ne pas laisser prendre d'empire sur moi par mes parents qui me reprochaient de m'être ruiné. Je leur répondis que ce n'était pas leurs affaires et que je ne leur demanderais jamais rien. Cette conduite me valut la réputation d'une femme de beaucoup de caractère. Nos embarras de fortune cessèrent à la mort d'un oncle de Lord de la Cour dont il hérita. Je me rejetai avec plus de force dans toutes les folies de société et je tâchai de me consoler dans le monde des désagréments de mon intérieur. L'ambition de plaire me dévorait. J'étais le martyr de la dissipation. Je me faisais esclave de mes plaisirs. Mon temps, mes actions, mes pensées n'étaient pas à moi. Il fallait trouver charmant ce qui m'ennuyait à périr, voir des gens qui me déplaisaient, faire ce qui m'était désagréable, et le tout pour conserver ma réputation de femme à la mode. « Pourquoi persister ?» me direz-vous. « Mon Dieu, pourquoi ?» Parce que j'avais commencé. Parce que cela était devenu ma vocation. Je n'étais plus bonne qu'à cette vie-là. Et qu'aurais-je fait autrement ? Je ne pouvais pas échanger deux idées avec Lord de la Cour. Depuis quelque temps, il s'était mis à boire. Il devint peu à peu ce que vous l'avez vu, une véritable brute. À propos, je suis une drôle de femme. J'ai oublié de vous dire que pendant les 5 premières années de mon mariage, j'ai 3 enfants. Le premier était un fils qui vint au monde mort. Les parents de Milord en rejetèrent la faute sur moi parce que j'avais refusé de me tenir en prison pendant 6 mois chez une tante à lui, une véritable Cassandre qui prophétisait toujours que j'accoucherais d'un enfant mort. Mon second enfant fut une fille. Elle vint au monde très faible. C'était alors la mode de nourrir, et je nourris. On m'en fit des compliments infinis, et j'y mis toute l'ostentation d'usage. Mais quand cela eut duré 3 mois, je commençai à trouver ce moyen ennuyeux. Ma pauvre petite fille devint malade. C'est une époque qu'il m'est pénible de rappeler. Au bout de peu de jours, elle mourut. Je crois que je l'aurais regretté encore davantage si Milord et ses parents n'avaient fait des lamentations qui m'étourdirent. Je me défendis de verser une larme en leur présence. Je laissai pleurer en public la vieille douairière, qui se consolait ensuite par des exclamations sur ma dureté. Je souffrais plus qu'elle, mais c'est ce qu'elle n'a jamais eu le plaisir de savoir. Mon troisième enfant fut encore une fille, et cette fois, je ne voulus pas le nourrir. Je l'envoyai à une bonne paysanne, bien fraîche, bien vigoureuse. Et cet enfant prospéra tellement que, quand on me la rapporta à l'âge de 3 ans, j'avais peine à croire que ce fut ma fille. Lord de la Cour ne pouvait pas la souffrir parce qu'elle n'était pas un garçon. Moi qui n'avais pas le temps de la nourrir, je n'avais pas, à plus forte raison, le temps de l'élever. Je pris donc une gouvernante, une certaine belle raisonneuse, qui me fatigua pendant 3 ou 4 ans de ses avis et de ses tracasseries, et que je fus obligée de congédier parce qu'elle était devenue la maîtresse de Milord. Je mis alors ma fille dans une pension célèbre, où elle doit, j'espère, être bien mieux élevée qu'elle n'aurait pu l'être chez ses chers parents. Je vous demande 1000 pardons, cher ami, de cette dégression sur les nourrices, les enfants et les gouvernantes. Le vide absolu dans mes affections de famille contribuait à me faire chercher des objets d'intérêt au dehors. Mistress Henriette Freck était alors la femme à la mode et je m'attachais à elle singulièrement. La première fois que je la vis, elle me parut laide. Mais elle avait beaucoup de physionomie, une expression singulièrement variée, des grâces, beaucoup d'esprit et une certaine séduction qu'il est impossible de décrire. Je n'ai jamais connu personne qui eût plus d'assurance. Je ne me rappelle pas de l'avoir vue rougir. Sa conversation était d'une liberté extrême. Dans le commencement de notre liaison, elle m'embarrassait souvent, car vous n'avez pas d'idée des choses qu'elle disait. Mais je fus tout étonné de voir que ce ton-là plaisait beaucoup aux jeunes gens les plus à la mode. Je sentis qu'il fallait réformer mes manières et mon ton si je ne voulais pas rester en arrière de cette aisance de société qui devenait indispensable pour être citée. Déjà, certains articles insérés dans les papiers publics me plaçaient en seconde ligne. La vivacité aimable de Lady de la Cour, disait-on, commence à souffrir de la comparaison avec le trait, l'à-propos, le brillant de Mistress Henriette Freck. Je sentis qu'il fallait me coaliser avec elle ou qu'elle allait m'écraser. Nous nous ligâmes et nous fîmes tout céder devant nous. Je ne puis pas faire honneur à ma politique de la liaison que je formais avec Henriette. Je me sentais de l'attrait pour elle, il y avait dans ses manières quelque chose d'abandonné qui me séduisait. Elle était si franche sur certains sujets que je lui crus de la sincérité sur tous. Elle avait le talent de faire croire que cette espèce de vertu qui compte sur ses propres moyens et dédaigne de s'entourer de précautions est réellement inattaquable. Quant à moi, je lui croyais une tête d'une force extraordinaire parce que je la voyais souvent approcher du précipice sans trembler. Nous n'eûmes pas plutôt formé notre ligne défensive et offensive pour la réforme des manières que je vis entrer mon imbécile de mari avec sa mine de circonstance qui me pria de considérer ce que je devais à son honneur et au mien. Il avait fait une fois cette phrase et elle lui revenait toujours. Il était comme l'homme à la cosmogonie du ministre de Wakefield. Vous imaginez-vous donc, lui dis-je, que parce que j'ai cédé sur l'Aulès, j'abandonnerai aussi le sens commun pour vous plaire? Henriette Freke est en relation avec tout ce qu'il y a de mieux. Il n'y a que les douairières et les jeunes filles qui ne la voient pas. Je ne suis ni l'une ni l'autre et je veux la voir. Il me vit décidé et plia. Je racontai cette conversation à Henriette. Elle en rit pendant une demi-journée. Elle trouva surtout très drôle que j'eusse avoué mon tort avec l'Aulès et elle m'en plaisanta tellement que je résolus de renouer avec le colonel uniquement pour démontrer mon innocence. L'occasion s'en présenta bientôt. Mon étoile amena le colonel sur mon chemin. Vous savez que c'est toujours notre étoile qui a tort. Il revenait d'une expédition sur le continent. Il avait reçu une blessure au front et portait un bandeau noir qui lui donnait quelque chose de romanesque, de demi-héroïque. Je ne saurais vous dire pourquoi, mais il est sûr que sa fatuité passait mieux avec ce bandeau. C'était un homme à la mode. Cette odieuse Madame Luttridge lui faisait des agaceries. Je n'eus qu'à sourire pour le gagner. Il s'attacha à mon char et partout où j'allais, je le traînais à ma suite. On s'étonnait, on chuchotait. Madame Luttridge me déchira. La méchanceté et l'envie se réunirent pour me calomnier. Je n'avais pas d'autre dessein que d'impatienter mon mari. Je m'enveloppai de mon innocence et je laissai dire. Quant au colonel, je m'inquiétais peu des effets de ma coquetterie sur son bonheur. Je savais qu'en sa qualité de fat, il n'avait point de sensibilité. De la vanité, je savais bien qu'il en avait jusqu'au bout des ongles. Mais je savais bien que, s'il s'avisait jamais de s'oublier avec moi, je la terrerais avec ma force supérieure de plaisanterie, de manière à ce qu'il ne se relevât pas du ridicule que je lui donnerais. Un soir, nous étions chez Madame Luttridge, qui tenait une banque de pharaon et qui trichait, j'en suis parfaitement sûr. Je perdis énormément d'argent, mais toujours avec la même gaieté. Je m'en piquais. Je me retirais de bonne heure. Il n'était guère que minuit. L'Aulès me donnait la main pour monter en voiture, lorsqu'un jeune homme d'une tournure leste vint me regarder sous le nez et sauta dans ma voiture aussitôt que j'y fus entré. Je le crus fou et je jetai un cri. Le colonel saisit ce jeune homme par le bras en lui disant « Qu'est-ce que c'est donc que ça ?» et en le tirant avec force. Un éclat de rire nous détrompa. C'était Henriette Freke. Le colonel se mit à rire, moi aussi. Et nous voilà qui cheminons en riant tous trois aux éclats. « Devinez d'où je viens, » nous dit Henriette. « De la Chambre des communes. J'ai été là 4 heures debout, presque étouffée. Mais c'est égal, j'ai gagné 50 guinées. J'avais parié avec Madame Luttridge que j'entendrais le discours de Sheridan. Vive les folies !» Elle était dans une sorte d'ivresse d'étourderie. Elle avait un habit inconcevable. L'Aulès riait comme un fou. Cela me gagna. Je me montai la tête avec eux et j'étais tellement en gaieté que je n'apercevais point que nous n'allions pas chez moi. Enfin, pourtant, je pris garde que nous n'étions plus sur le pavé. Je m'écriai « Où allons-nous donc ?» Je mis la tête à la portière et je m'aperçus que nous étions hors des barrières de Londres. Je voulus tirer le cordon du cocher. Mais Henriette s'en était emparée et me dit avec de nouveaux éclats de rire « Laissez-le faire, il nous mène bien, je lui ai parlé. N'allez-vous pas avoir peur que nous ne vous enlevions ?» Pour ne pas paraître ridicule, je me mis à rire avec eux. « Devinez où nous allons, » reprit Henriette. Je devinais, et toujours on me disait non, en riant plus fort. Mon inquiétude, qui commençait à percer en dépit de moi, les divertissait, je crois, extrêmement. Enfin, le carrosse s'arrête tout au bout de Sloane Street. Il faisait fort obscur, le flambeau de mon laquais était éteint. Tout ce que je pus discerner, c'est que nous étions devant une maison isolée et de petite apparence. La porte s'ouvrit, une vieille femme se présenta avec une lanterne à la main. Je suivis Henriette en lui disant pourtant d'un ton à demi sérieux « Mais au nom de Dieu, où me menez-vous » « Venez, venez, me dit-elle, en m'entraînant dans un corridor sombre. Vous allez savoir votre destinée. » Le colonel riait derrière nous, et ce mot « destinée » me fit penser qu'on me menait consulter une certaine pythonisse, le prophète des faubourgs, et dont on parlait avec étonnement depuis plusieurs semaines. Je dis à Henriette que je savais où elle me menait. Alors elle s'écria « La peste du rieur, il nous gâte toute notre affaire. Savez-vous pourquoi il rit? C'est qu'il croit au diable et à toutes ces choses-là, et il veut persuader qu'il n'y croit pas. » La vieille femme avait un rôle muet. Elle ouvrit une grande chambre fort mal éclairée, où nous trouvâmes une longue figure de femme tout enveloppée de fourrure. Elle nous fit des simagrées destinées à effrayer, mais qui ne me parurent que ridicules, et je crois que j'aurais été tout à fait en colère contre Henriette de m'amener dans une pareille maison, si je n'avais pas su positivement que des femmes à la mode y étaient venues avant nous. Quand il n'y a point de ridicule aux choses, il n'y a point de honte, vous le savez. En sorte que je me sentis parfaitement à mon aise. Pour Henriette, elle était toujours à son aise, et cet habit d'homme semblait doubler son impudence. Elle prit le rôle d'un jeune libertin et fit à la sibylle 50 questions de mauvais ton. Enfin, elle lui demanda combien de temps après la mort de Lord de la Cour sa veuve se remarierait. « Elle ne se remariera pas après sa mort, » répondit l'oracle. « Elle se remariera donc de son vivant, » reprit Henriette. « Vous l'avez dit, » répondit la voix mystérieuse. Je me sentis vivement en colère. Le colonel s'en aperçut et je crois qu'il aurait fait finir la plaisanterie, mais rien ne pouvait arrêter Henriette. Elle avait mis de côté la modestie d'une femme sans prendre la décence d'un homme. « Qui sera son second mari ?» demanda-t-elle. « Vous pouvez nous le nommer, personne ici ne s'en fâchera. »« Qu'elle le demande à son amant, » répondit l'oracle. Henriette et le colonel jouissaient sans pitié de mon embarras, et il était extrême. Toute folle, toute légère que j'étais, une faute grave était pour moi une chose effrayante. Les idées de divorce, d'éclat et de honte publique se présentèrent à mon imagination avec force. Et cependant, je n'osais pas être moi-même. La crainte du ridicule l'emportait sur la crainte du vice. Mais mon inquiétude et mon malaise étaient évidents. « Qu'avez-vous donc ?» me dit Henriette quand nous sortîmes de la maison. « On dirait que vous n'osez pas vous fier à nous. Et de qui avez-vous peur ici ? Est-ce de moi, du colonel ou de vous ?» Il y avait dans ce dernier mot quelque chose de si mordant et de si humiliant que je ne sentis que cela et que je n'eus rien autre chose à cœur que de bien montrer que j'étais sûre de moi-même. À force de fausse honte, je n'eus plus de honte. « Vous croyez peut-être, ma chère amie, quelles femmes de ma tournure ne connaissent guère la fausse honte. Elles en sont esclaves, au contraire, malgré toute l'assurance qu'elles affectent. Je moralise parce que j'approche d'un événement que je voudrais bien taire, mais je vous ai promis de tout dire. » Il n'était pas encore grand jour quand nous arrivâmes à Knightsbridge. Le colonel, encouragé par notre étourderie, était plus familier que je ne l'avais encore vu. J'étais fort impatiente d'en être débarrassée. Mais pourtant, je ne pouvais pas lui dire « Allez-vous-en ». Henriette me pria de la ramener chez sa sœur, à Grosvenor Square. Comme elle descendait de voiture, le coq chanta dans la cour de la maison. Elle me dit « Je vous félicite, voici le coq qui chante. Vous n'aurez pas peur des esprits, je pense, sans quoi je ne voudrais pas vous laisser ainsi seule. » « Seule ?» lui dis-je. votre ami le colonel vous est bien obligé de le compter ainsi pour rien. » L'oracle dit que vous ne faites qu'un à vous deux, me dit-elle tout bas en s'appuyant contre la portière. J'éprouvai un vif sentiment de honte. Je criai au cocher « À Berkeley Square ! Adieu, Henriette ! Mais à propos, colonel, où faut-il vous ramener ?» Il ne répondit pas. Nous cheminions. Une sorte de honte me gagnait et perçait en dépit de mes efforts. Le colonel, qui était à la fois un fat et un sot, s'y trompa et crut que j'étais décidément à lui. Il devint d'une insolence telle que je fus obligé de faire arrêter et de lui dire « Allez-vous-en !» Il fut pétrifié et s'éloigna très confus en murmurant quelque chose contre les femmes que je n'entendis qu'à demi. Pour moi, quoique je m'en tirasse avec les honneurs de la guerre, je me reprochais amèrement mon étourderie. Le lendemain, j'envoyai chercher Henriette pour lui conter la chose. Elle me parut si étonnée, si en colère contre ce fat de colonel, que je me reprochais les idées qui m'avaient passé par la tête sur son compte et que je sentis renaître pour elle toute mon affection et toute mon estime. Il y a des gens chez qui l'estime précède l'affection. Chez moi, c'est tout le contraire. Nous discutâmes ce qu'il y avait à faire et nous conclûmes qu'il ne fallait plus parler de cette affaire. Je ne pouvais pas faire un éclat sans mettre l'ordre de la cour en jeu et il n'aurait pas manqué de me répéter pour la 99e fois qu'il fallait soigner son honneur et le mien. Outre cela, le colonel ayant été puni sur le lieu même du délit, il ne fallait pas le punir pour la seconde fois. Une telle rigueur eût été contraire aux lois des Anglais et des Anglaises. Je trouvais aussi que l'ordre de la cour était le dernier homme du monde que j'aurais voulu prendre pour mon chevalier. Enfin, je me disais aussi que, de quelque manière que la chose fût contée, l'histoire n'aurait pas fait un trop bon effet pour moi. Je résolus donc de me taire, croyant fermement que ce ne serait pas le colonel qui parlerait le premier. Dès le lendemain, l'aventure était publique. Chacun la racontait à sa manière, avec des exagérations qui me revinrent et qui me mirent au désespoir. J'étais dans une rage inexprimable contre le colonel. Et au moment où je donnais l'essor à mon indignation, dans une grande assemblée, quelqu'un arriva hors d'haleine et raconta que Lawless venait d'être tué en duel par l'ordre de la cour, qu'on rapportait son corps chez sa mère et que les porteurs passaient dans ce moment sous les fenêtres. Tout le monde y courut et moi, je perdis connaissance. Quand je revins à moi, je pouvais le sentiment le plus douloureux que j'ai connu de ma vie, celui d'avoir à répandre du sang d'une créature humaine. Quand Milady en fut là de son histoire, elle se leva d'un air inquiet et égaré qui effraya Belinda, et elle lui dit « Qu'est devenue Mariette? J'ai besoin de prendre de l'opium. Miss Portman, sonnez, je vous prie. » Mariette apporta une fiole et Milady prit ses gouttes de laudanum, but une tasse de café et un verre de liqueur. Après quoi, se tournant vers Belinda avec un sourire forcé, elle lui dit « La princesse Scheherazade est prête à continuer son histoire. »